Et où Maestrachi, alors sans surprise, Roger Federer s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Et actuellement, deux Français sont sur le court, Mathéo.
Et oui, et ça se passe plutôt bien pour les Français concernés, puisque sur le court central, Marion Bartoli, numéro 1, française 11e mondiale, affronte l'Allemande Gorges, qui pointe en 18e position. Entrée catastrophique en jeu pour Marion Bartoli, qui a été rapidement menée 4-0. Et elle a perdu la première manche 6-3 en seulement 33 minutes, avec une Gorges très bonne sur son service. Et puis, comme d'habitude, pourrait-on dire, Marion Bartoli a mieux joué ensuite, avec ce fameux point brandi lorsqu'elle laisse parler sa combativité. Elle a remporté le deuxième set en faisant le break 6-2 en 36 minutes. Et là, dans le troisième set, ça se passe très bien également pour Marion Bartoli, qui mène logiquement, par rapport à ses efforts, 4-1 face à l'Allemande. Donc elle va peut-être bientôt remporter cette rencontre, Marion Bartoli, 2-7-1, après une entame, je le disais, assez catastrophique dans la première manche. Il faut rappeler que Marion Bartoli n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Roland-Garros, c'était en 2007. Donc peut-être qu'elle va accéder justement à ses huitièmes de finale aujourd'hui. Et rapidement, l'autre Français sur le court en ce moment, c'est Gaël Monfils, le numéro 1 français, 9e mondial, qui joue contre le Belge Steve Darcy, 135e à l'ATP. Et logiquement, Gaël Monfils mène, il a remporté la première manche 6-3, un jeu partout dans la deuxième manche entre les deux hommes.
Merci Matteo Maestrachi.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
Ce soir, nous partirons avec Enayatollah Akbari, héros du livre de Fabio Jeda, Dans la mer, il y a des crocodiles. L'histoire vraie de cet enfant afghan d'origine Hazara, contraint à l'âge de 10 ans de quitter son pays et sa famille, seul sur les routes périlleuses de l'émigration. À ce soir, 21h. France Inter.
La différence.
15h05 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour. Voilà, je suis un peu inquiète. Je voudrais savoir si Monsieur DSK est allé à Celle ce matin et quelle est la couleur de son papier cul. Merci, au revoir. Jacqueline.
Bonjour Daniel, bonjour aux AMG. Voilà, j'ai un message à vous faire écouter pour ceux qui hésiteraient à passer de l'indignation à la révolte. Tendez l'oreille, voici une des plus grandes progressistes du XXe siècle.
Avec le président de la République, on a toujours soutenu un libéralisme que j'appellerais tempéré, parce qu'il est régulé et parce qu'il doit protéger les faibles contre les forts. C'est l'essence du libéralisme. Avec le président de la République, on a toujours soutenu un libéralisme que j'appellerais tempéré, parce qu'il est régulé et parce qu'il doit protéger les faibles contre les forts. C'est l'essence du libéralisme.
Voilà, c'était Christine Lagarde. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Salut Daniel, salut à tous. Pour le 38e jour consécutif, l'école de Doisieux dans la Loire est occupée par les parents d'élèves qui refusent la fermeture de la troisième classe qui va entraîner des grosses difficultés pour tout le monde l'année prochaine dans cette école. Des classes à quadruple niveau, 25 enfants par classe, le rêve quoi. Donc on est mobilisé depuis bientôt un mois et demi, on a bloqué la circulation, on est en accord avec les autres écoles d'à côté qui arrivent les mêmes choses, Tarentaise de Saint-Thomas-la-Garde. Et merci de votre soutien, merci de relayer cette info. Il y aura des actions prochaines où les gens pourront venir nous aider et on vous les communiquera à ce moment-là. Merci beaucoup, à bientôt.
Salut l'équipe, alors c'est Jérôme à Toulouse. C'était pour un petit réglage d'ordre linguistique. Langage, aptitude innée à communiquer propre à l'être humain. Langue, produit acquis, instrument de communication. Code constituant un système de règles communes à une même communauté. C'est des cours de linguistique que je viens de trouver sur le net. Et ça fait 2 jours que Daniel il utilise en Espagne là, le terme langage des signes. Et les sourds, en France et ailleurs, ils préfèrent vraiment qu'on dise langue des signes. C'est important pour eux. D'ailleurs, en ce moment, en Italie, ils se battent pour ça, parce que les sénateurs ont voté une loi pour appeler la langue des signes italienne le langage mimo-gestuel. C'est vexant. Bon, eh bien, bonne journée, bonne Espagne à l'équipe, et merci pour tout.
Nous, citoyens, citoyennes, salariés, chômeurs et chômeuses, fonctionnaires, travailleurs et travailleuses précaires, étudiants, étudiantes, retraités, inspirés du mouvement citoyen de nos voisins espagnols qui s'est déjà étendu à l'Italie, au Portugal, à la Grèce et se développe actuellement partout avec plus de 700 campements. Nous sommes mobilisés quotidiennement en assemblée citoyenne et exprimant toute notre complète solidarité avec les révoltes populaires de Tunisie, d'Égypte, de Libye, du Yémen, d'Espagne, de Grèce et du monde entier. Nous sommes indignés de l'état actuel du monde dont la situation est devenue intenable. Nous pensons que les pouvoirs politiques et financiers sont trop concentrés par une minorité d'individus au service d'intérêts particuliers. Nous ne faisons plus confiance aux institutions actuelles pour régler nos problèmes sociaux, économiques, environnementaux, qui menacent notre humanité. C'est pourquoi nous serons nombreux et nombreuses déterminés pour reprendre en main notre vie. C'est le tract qui a été voté ce soir, place Bellecour, à Lyon. Depuis lundi, on est à peu près 200 à se réunir tous les soirs à 19h. Donc venez, venez discuter avec nous. Il y a du monde, on s'organise. C'est Dimitri de Lyon.
Bonjour, je voulais signaler qu'en relais des réunions des indignés en Espagne, nous nous rassemblons à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence sur la place Marcel Pagnol à midi, samedi 28, donc demain. Merci à tous, on discutera de ce que c'est d'être indigné et de ce pourquoi nous ne sommes pas du tout contents de ce système de merde. Bonne journée à tous, au revoir.
Allô, salut Daniel. Bon, ben, je voulais te remercier pour les émissions sur la Puerta del Sol. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ce qui se passe là-bas. En fait, je voulais rebondir là sur ce que dit un copain grec au sujet du pacte de compétitivité. Il faut savoir qu'en ce moment, au Parlement européen, on discute d'un grand serrage de ceinture généralisé. Bien entendu, pas pour les marchés, les banquiers, mais pour les peuples à travers la réduction des allocs, des retraites, du financement des services publics. Donc, je voulais vous signaler que les Attaques d'Europe organisent une pétition pour faire pression sur le vote. Donc pour signer, il suffit de se rendre sur le site d'Attaque France dans l'espace « Une autre Europe est possible ». Voilà, et donc sinon, à Paris, ce dimanche à 14h, on prend la Bastille avec les copains de Democracia Real. Donc venez nombreux, ce sera une manif festive et déterminée. Voilà, hasta luego, compañeros.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Un petit mot de Nico, donc de la CNT Paris, pour vous dire que ce week-end, il se passera beaucoup, beaucoup de choses en région parisienne. Et chez nous, au 33 rue des Vignoles, on aura le plaisir ce soir de débattre des révolutions arabes, d'accueillir ensuite le groupe Zone d'Expression Populaire. Demain, on vous invite tous à nous rejoindre à la manifestation célébrant le 140e anniversaire de la Commune de Paris. Ça se passe devant le mur des Fédérés, c'est pas bien compliqué. Et ensuite, on se retrouvera au Vignoles, toujours 33, pour accueillir Bernard Friot qui parlera de salaire et de répartition des richesses. Et enfin, dimanche, on vous invite tous à assister à la projection du film Grand Puits et Petite Victoire, des camarades des Mutins de Tanger, en présence d'Olivier Azam, le réalisateur que vous connaissez bien, puisque c'est celui qui a, avec toute son équipe de camarades, réalisé Chomsky et compagnie. Voilà, ça se passe au 33 rue des Vignoles, ce sera un week-end festif en cette fin de mois de mai, en cet anniversaire de la Commune de Paris. À bientôt, salutations libertaires.
Merci à Daniel pour être sur la Puerta del Sol. Est-ce qu'il pourrait se renseigner afin de savoir pourquoi on ne peut plus voir ce qui se passe sur la Puerta del Sol et la webcam ne fonctionne plus depuis 2 jours? Est-ce qu'il serait possible d'en remettre une en place? Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse entendre les débats, qu'il y ait des traducteurs? Je suis sûr que ça peut se faire, ça. Et qu'on est dans le monde entier en direct, ce qui se passe, ce qui se dit. C'est pas de leurs problèmes qu'ils parlent, c'est des nôtres, à tous. Merci, au revoir.
Plus de webcam, eh ben tant pis, on va faire une webcam sonore, ce sera encore plus beau. Dans la basse, j'y suis aujourd'hui à la Puerta del Sol à Madrid, où nous sommes toujours. Alors la question qui se pose, c'est essoufflement ou élargissement du mouvement? On s'interroge. Ce matin, vous le savez, les campeurs, les indignés de la place de Catalunya à Barcelone ont été brutalement évacués par la police en perspective du match de foot de demain soir. On sait que les supporters du Barça ont l'habitude, le soir, de se regrouper sur cette place et on craignait évidemment des affrontements entre les uns et les autres. En tout cas, on dénombre 43 blessés, on dit plus ce matin, et un appel à solidarité, un appel à manifester dans toutes les villes où il y a des réunions et des campements d'indignés à travers l'Espagne de 19h à 20h ce soir, et ça concerne au moins 50 villes. Alors, est-ce que le mouvement s'élargit ou est-ce qu'il s'essouffle? Si on regarde les images qui nous viennent de Grèce, on peut dire qu'il s'élargit. Si on écoute les envies qui viennent de France, dimanche à la Bastille, à Lyon, un peu partout, on se pose la question, personne n'a la réponse. Nous, on est descendu vers Séville, on est à Marina Leda. Et ça, c'est un petit village de 3000 habitants, une petite ville de 3000 habitants extraordinaire, où depuis 30 ans, on a mis en œuvre, on applique les idées dont on parle dans toutes ces AG, toutes ces réunions sur la démocratie, l'emploi, la vie sociale, la propriété, le logement, etc. Eh bien ici, à Marina Leda, depuis 30 ans, on applique des idées comme celle-là, des idées sociales, des idées de gauche, des idées libertaires, et ça marche. Voilà pourquoi nous sommes là, on vous racontera tout ça à notre retour. Donc aujourd'hui, on est sur la place, des photos sonores de la place, des rencontres avec des personnages, toujours ce grand plaisir, ce grand bouillonnement, ce grand brouillonnement, mais aussi des informations précises. Bref, en direct de la Puerta del Sol, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je ne sais pas si vous avez été nombreux, chers AMG, à écouter ce matin Madame Louvergeon au micro de France Inter. En tout cas, elle a pas mal défendu ce fonds de commerce, mais là où elle a été très très forte, c'est lorsque Patrick Cohen lui a demandé si Areva maintenait ses projets de centrale nucléaire en Inde malgré la forte opposition de la population. Elle a répondu, tenez-vous bien, nous n'exportons pas seulement notre industrie nucléaire, nous exportons aussi les antinucléaires. Et elle a expliqué qu'en fait, si les gens étaient opposés là-bas, bon, ils sont beaucoup trop bêtes, écoutez, ce sont des paysans indiens, vous vous rendez compte, c'est parce que ce sont des ONG européennes, et françaises en particulier, qui sont allées les chauffer contre le nucléaire. Absolument incapables de s'opposer à quelque chose d'aussi génial que le nucléaire, les pauvres indiens. Donc c'est ta faute, Daniel, c'est de notre faute à tous. Salut, c'était Anne, une antinucléaire, même si elle s'appelle Anne.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour les AMG. Ce soir, vendredi 27 à 20h, le repère de l'Abbas si j'y suis de Tonquédec dans les Côtes d'Armor, près de Lannion, organise une soirée spéciale en faisant venir Franck Lepage et Gaël Tanguy pour une soirée Inculture numéro 5 sur le thème le travail. Travaillez moins pour gagner plus. C'est à 20h, l'entrée est à 10 euros. Voilà, on se permet de faire un petit peu de pub sur le répondeur pour informer le plus grand nombre de gens pour cette soirée qui, je pense, sera absolument passionnante. Amitié à tous, le repère de la basse issue est au temps des cerises à Tonquédec. Salut à tous.
Bonjour, voici un couplet d'une chanson des années 1900 de Plébus, socialiste avant tout, tout à fait prémonitoire. Dans notre siècle d'égoïsme, de malfaisants et de pouilleux, moi je défends le socialisme, c'est vous dire si je suis partageux. De voir des gens sans cœur, ça me vexe, mesdames, je l'avoue, entre nous, je donnerai ma chemise pour le beau sexe. Je suis socialiste avant tout. Voilà, c'était de la part de l'ouvrier Louvel, dans la bonne ville de Tours.
Là-bas, si j'y suis, avec les indignés de la Puerta del Sol, à Madrid.
Il n'y a pas beaucoup d'affiches. Il n'y a pas beaucoup d'expressions graphiques, hein. Il y a beaucoup d'inscriptions, de textes, mais pas beaucoup de dessins. Celui-là est particulièrement radical. C'est un gros... Alors c'est la figure du capitaliste, du gros méchant capitaliste, qui est en train de lire son journal, qui est assis, qui est en train de chier des buildings. Il est en train de chier des maisons. Et il y a, on le voit bien, puisqu'il y a la chasse d'eau, il y a le rouleau de papier cul, et il est en train de chier ce qui a été... C'est la vraie merde. C'est la vraie merde de l'Espagne, c'est-à-dire ces constructions complètement délirantes, cette bulle immobilière. Ça, c'est quoi? Ah, bien, bien, bien. L'urbanisation banale. Non à l'urbanisation banale. Là, il y a une grande assemblée. Une grande assemblée sur la place Puerto del Sol. On applaudit, on... lèvent les bras, on remue les mains. Il y a 2000 personnes là. Les orateurs se succèdent.
Moi, je pense qu'on ne peut pas créer une commission pour chaque cause, quoi. Il y a plein de problèmes à traiter. Et on ne peut pas faire une commission pour chaque problème.
De ne pas créer une commission pour chaque cause. Vous levez le bras devant votre transistor, les deux bras devant votre transistor, et vous faites tourner vos mains comme ça, ainsi fond, fond, fond. Ça, ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord pour ne pas être d'accord. Et tout ce qui est dit là est doublé en langage des signes.
Et retranscrit, donc, et semble-t-il mis sur le site internet de Democracia Realia ou madrid.tomalaplaza.net.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Antoine Chao depuis la Puerta del Sol à Madrid.
Flight number 2, arriving from New York.
Ouais, ben le combat continue, là, c'est l'heure de la sieste, il fait un peu lourd, mais tout à l'heure, ça va repartir, et nous dit-on, ça va se disséminer à travers les quartiers de Madrid, dans la périphérie, dans les campagnes et à travers tout le pays. Ça va ensemencer, ça va aller évangéliser toutes les nations, dans tous les petits villages et tout, voilà, et sous des formes différentes, avec des sensibilités différentes qui vont de l'extrême gauche à l'extrême centre. Voilà, c'est un réveil dont on essaiera d'expliquer ça sans doute par la suite très savamment, mais les savants qui l'expliqueront par la suite aurait mieux fait de le prévoir et de le voir venir. Mais ça, je crois qu'ils ne sont pas très nombreux, ceux qui ont vu venir ce mouvement, qui est un réveil. Voilà, c'est un réveil politique en Espagne, dû, hélas, au chaos, dû au malheur dont souffre une partie de la population, une partie de plus en plus importante de la population, qui n'est pas d'ailleurs présente là. Hein. Ici, c'est ceux qui sont déjà un peu diplômés, qui sont un peu déçus, qui sont un peu, c'est les jeunes bobos cocus, quoi, qui sont là, qui sont un des moteurs de ce mouvement.
Ou jeunes déjà très engagés dans les mouvements sociaux, voilà, déjà politisés.
Alors, qui sont rompus à l'exercice des communautés autour des squats, qui sont rompus à cette vie commune, à la façon de vivre comme ça, avec des idées, des horizons, mais qui sont quand même très, très pris par leur propre organisation, par leur propre vie, par leur propre communauté, quoi, disons, et qui sont sortis de leur alvéole. Et puis, derrière ça, il y a aussi des gens qui viennent avec des idées, qui ont une culture politique plus ancienne, des militants plus aguerris, qui viennent avec leur drapeau dans la poche. C'est un ensemble politique, mais ça fait un bien fou dans une ville qui est complètement amorphe, où le cynisme résigné, comme partout, l'emporte. Toutes ces rues commerçantes où on trouve des marques, on est complètement, on est en procession, c'est les processions de la consommation et du tourisme idiot qui l'emportent. Là, tout d'un coup, c'est un réveil et ça fait un bien fou. Critiquer ce mouvement, c'est déjà une réussite du mouvement. Et ça, c'est formidable. Et puis, ce qui restera très longtemps, c'est pour tous ceux qui y ont participé, plus de près que de loin, ça les transforme, c'est en train de les transformer. Ils sont en train d'apprendre beaucoup de choses très vite, ils s'en souviendront et l'Espagne s'en souviendra. Voilà, ça c'est déjà, d'ores et déjà un acquis. Maintenant, qu'est-ce que ça changera? Directement, tout de suite, là, maintenant, c'est bien possible qu'il n'y ait pas de grands bouleversements, mais sur plus long terme, d'une manière imprévue, imprévisible, dans des tas de moments, d'associations, de mouvements, de manière absolument imprévisible, il est sûr que c'est un ferment fertile pour le pays et, on l'espère, pour le reste du monde, à commencer par la France.
Estar, cuando entiendo en casa esta música, estoy de revuelta.
es querido, es tiempo de divagar. Alguien controla toda tu vida. Siento frío, estoy herido, no sé contra quién atacar. Conduciendo en casa esta música, estoy de revuelta. El volumen le doy, estoy de revuelta. El volumen le doy, estoy de revuelta.
Yo soy Jon Aguirre Such. Tengo 26 años, estoy haciendo el proyecto fin de carrera de arquitectura.
Moi, je suis Jon Aguirre Such, j'ai 26 ans et je termine mes études.
Y soy portavoz de la plataforma Democracia Real Ya.
Et je suis porte-parole de la plateforme Democracia Real Ya, Democracia Real Maintenant.
Et toi?
Yo soy Carlos Paredes, tengo 31 años, emprendedor, tengo una pequeña empresa de informática.
Moi je suis Carlos Paredes, j'ai 31 ans et je suis entrepreneur, j'ai une petite entreprise d'informatique.
Y soy uno de los portavoces de Democracia Real Ya.
Et je suis aussi un des porte-parole de Democracia Real Maintenant.
Democracia Real Ya es una plataforma coordinadora de colectivos pro movilización ciudadana.
Democracia Real Maintenant est une plateforme de coordination. Es différents mouvements sociaux.
Comienza hace tres meses cuando unos blogueros internautas ponen en común pues todo un estado de indignación colectivo.
Donc Démocratie Réelle Maintenant a démarré il y a trois mois quand une série de blogueurs ont mis en ligne une indignation générale collective.
Quel lien entre ce mouvement et puis la révolution tunisienne? Est-ce qu'il y a un lien?
No, en realidad, bueno, Internet es algo que lleva ya un tiempo utilizándose para poner posturas en común.
Internet es ya utilizado depuis longtemps pour mettre des revendications communes en ligne.
El único paralelismo que existe entre las revoluciones del mundo árabe y la revolución actual española es la utilización de las redes sociales Internet como punto de encuentro y altavoz de todas estas proclamaciones.
Le seul lien avec les révolutions tunisiennes ou arabes, c'est qu'on a utilisé le même outil pour relayer notre contestation.
Nosotros, bueno, ellos están peleando por instaurar la democracia. Nosotros estamos peleando por mejorar la democracia.
Eux, ils luttent pour installer la démocratie. Nous, on lutte pour améliorer la démocratie.
Ahora mismo, la democracia que tenemos nos permite votar una vez cada cuatro años, pero los ciudadanos no tenemos ninguna vía de control sobre nuestros políticos. Los partidos que salen elegidos pueden hacer lo que les dé la gana.
Nous avons le droit de voter tous les quatre ans, mais pendant ce temps, on n'a aucun moyen de pression sur les hommes politiques qu'on élit.
Lo que buscamos es de alguna manera que el poder político pueda estar controlado por el poder ciudadano.
On essaye de faire en sorte qu'il puisse y avoir un contrôle citoyen sur la politique.
Porque lo que se está viendo es que los políticos se profesionalizan, son siempre los mismos en los mismos puestos.
Parce qu'on se rend compte que la politique se profesionalise, ce sont toujours les mêmes qui occupent les mêmes postes.
Y convierten su labor de representación ciudadana en su puesto de trabajo.
Et ils confondent leur rôle de représentant de la population en boulot, quoi.
Anteponiendo sus intereses personales y sus salarios por encima de los intereses de aquellos a quienes representan.
Plus intéressés par leur revenu personnel que par l'intérêt général.
Democracia Real Ya es una plataforma apartidista y asindicalista.
C'est une plateforme apolitique et
apartidista. No es tanto contra los políticos, sino que no hay ningún partido político, ningún sindicato integrado en la plataforma ni nunca.
C'est pas contre les politiques ou contre les syndicats, c'est qu'on est, on n'est pas dans les partis politiques ni dans les syndicats.
Eso. Nosotros aceptamos la labor que hacen los partidos políticos y los sindicatos, pero no
on accepte et on reconnaît le travail que font les partis politiques et les syndicats,
pero no de la manera en la que están haciendo. Tienen que cambiar la manera de trabajar.
Dans la façon dont ils le font maintenant. Ils doivent changer leur manière, leur façon de travailler.
Hay una pregunta que quisiéramos lanzar al pueblo francés.
On veut lancer une demande au peuple français.
¿Por qué se pide que haya un calendario laboral y unas vacaciones comunes a todos los europeos desde Alemania?
Alors pourquoi on essaye de limiter les acquis sociaux et notamment les vacances et les congés payés à partir de l'Allemagne, du modèle allemand?
¿Por qué se globalizan todas aquellas cosas que suponen reducir el estado del bienestar de la mayoría?
Pourquoi on globalise au niveau européen toute cette réduction du bien-être social?
¿Pero por qué no se globalizan los sueldos?
Mais pourquoi on ne globalise pas les salaires?
¿O por qué no se globaliza la medicina?
Ou la médecine, la santé?
¿O la educación?
Ou l'éducation?
estas preguntas hay que hacérselas.
Las tenemos que hacer toda Europa y todo el mundo.
Mais on doit se les poser tous au niveau européen et au niveau mondial.
C'est ça. Mais ça, c'est les idées que ATTAC, par exemple, met en avant depuis des années.
Nosotros tenemos todo el apoyo de ATTAC, no solo en España, sino internacionalmente.
Bien sûr, et nous, d'ailleurs, on est appuyé par ATTAC au niveau espagnol, au niveau national et international.
Nosotros, de hecho, ya les hemos planteado una colaboración
a ATTAC. On leur a déjà proposé de collaborer.
Para desarrollar todo esto.
Pour développer tout ça.
La cuestión es que nosotros hemos podido canalizar toda esa indignación. Y hemos,
ce qui se passe, c'est que nous, on a réussi à canaliser toute cette indignation.
Y tenemos una base social muy grande.
Y que, une base sociale très large.
Que hasta el momento ATTAC no tenía.
Que ATTAC jusqu'à aujourd'hui n'avait pas.
Y capacidad de movilización.
Et on a aussi une capacité à mobiliser les gens.
Les indignés de la Puerta del Sol. Là-bas, si j'y suis, Madrid.
Marine, toi, t'es une Française, tu vis ici depuis combien de temps ?
Depuis 7 ans.
Depuis 7 ans. Ce qu'on voit là, cette agora, là, hein, cette réunion.
Plaza de Pontejos.
C'est-à-dire que là, on est au-dessus de la place de Puerta del Sol. Sur une place, c'est beaucoup plus calme. Il fait frais, ça commence à être agréable. Et là, c'est un débat. Sur quel thème, Marine ? C'est sur quel thème ?
Politique à long terme.
Politique à long terme. D'accord. C'est vachement organisé, vachement sage. Il n'y a pas de sono, donc c'est à portée de voix. C'est très discipliné, très sage. Ah, il y a un mégaphone quand même. Ah, voilà, il y a une jeune femme qui se lève et qui prend la parole.
Il y a une petite centaine de personnes quoi, qui assistent voilà, à cette assemblée.
Voilà.
Non, et puis c'est des jeunes quand même qui ont un niveau d'études déjà conséquent, qui ont les têtes bien construites. Quoi.
Ouais.
Du coup, ils sont capables d'articuler, de débattre, de mettre en forme.
Et alors, on fait très attention à ne pas salir. Hein. Il n'y a pas de tag sur les murs. Hein. Juste un morceau de carton sur la base du monument, un morceau de carton avec du scotch. Hein. Surtout pas salir, pas abîmer. Très respectueux, très sage, très très sage, c'est étonnamment sage. D'après toi, Marine, toi qui commences à avoir l'habitude, qui organise ?
C'est des gens qui ont participé à d'autres mouvements, ils n'en sont pas à leur première assemblée, on va dire, mais ils sont venus là de façon neutre, quoi. Enfin, de façon personnelle. Quoi. Ils ne représentent absolument ni aucun syndicat, ni aucune association, ni aucun groupe politique, et ni aucun groupe universitaire. Enfin, souvent, les gens qui sont là, en fait, ils ont des expériences de l'université, je pense, des assemblées d'étudiants. Et donc, ils sont là pour modérer les assemblées, mais sans vouloir s'imposer ni imposer leur point de vue. Enfin, en général, ça se passe assez bien, puisqu'ils sont assez habitués à faire ce genre de choses. Et donc là, ça commence à aller mieux, mais disons qu'au début de la semaine dernière, souvent les gens prenaient la parole n'importe comment, dans les assemblées, c'était beaucoup plus chaotique. Et donc finalement, les gens qui avaient un peu plus d'expérience ont essayé de former un groupe qui s'appelle Organisation des Assemblées. Et donc là, ils se sont décidés sur une façon de communiquer, une façon de prendre la parole et une façon de donner la parole dans les diverses assemblées.
Mais même le mégaphone est discipliné. Le mégaphone, normalement, ça braille, quoi. Ça casse les
oreilles
à tout le monde. Même le mégaphone est au niveau juste réglé pour que tout le monde puisse profiter du débat, mais sans faire de la pollution sonore. Elle disait que pour elle, l'anticapitalisme ne pouvait pas marcher, que c'était un rêve. Donc il y a eu pas mal de bras qui se sont croisés, en signe de...
Oui ou non. Qu'est-ce qu'on fait du capitalisme dans cette histoire ? C'est quand même la question cruciale. Et là, la question cruciale, elle est posée. Elle est posée sur cette petite place, tout à fait charmante, hein, avec des gens sagement assis...
voy un poco frustrado a casa porque cuando hablo con gente que va a las otras comisiones me alucina que estén todos de acuerdo tan rápido. Y no me refiero a la comisión de circo.
Moi, ça fait plusieurs jours que je suis là et je suis étonné que dans d'autres assemblées, tout le monde est d'accord tout de suite. Je suis un peu frustré. Mais là, je vais... Voilà, il faut créer une...
La réforme ou la révolution.
Je crois qu'il y a une fracture qui s'ouvre sous nos pieds, là, entre réforme et révolution.
Elle n'est pas nouvelle, la fracture. Hein. Elle n'est pas nouvelle.
Nous voulons un changement de système. Donc une révolution, mais pour moi, elle doit être démocratique. Voilà, ça c'est ma proposition.
Et il est assez approuvé, une petite majorité peut-être.
Se lève, quelques...
Une petite majorité. C'est marrant parce que ces jeunes-là renouent avec les grandes traditions politiques européennes qui sont... les libertaires, les autoritaristes et les réformateurs.
Apuesta por ti, tío, mientras sonrío. Ambición, pasión, dolor, dicen que creció. He sentido eso de meterme más de un lío de cerca. Aprendí con mi grupo a blindar mi puerta. Ebrio en cada sala, motor de un gremio. La suerte que te avala separa mi fe del éxito. Crecí con la misión de superarme. Abrí un hueco en mi interior, mi educación brotó en un parque. Valor sin margen, un sueño a bordo. Mi vida en crisis sigue viva como primer logro. Luego brindé en torno a un mundo que te priva. Javier el nombre, me nombro, rompo con mi iniciativa. Va con prisa, con ganas de pisar. Tus ganas de olvidar, mi afán no se va. La asfixia, conozco a gente como tú con esta escuela. Os mando fuera, mientras mi grupo impone su bandera.
Día a día luchando, vidas manchadas de fango. Hasta la última carta apostando en mi
vida. Donc là on est à quelques pas de la Puerta del Sol avec José María Ruiz, qui est le porte-parole de la plateforme, hein, comme on dit ici, de la plateforme, du groupe de travail sur les victimes, hein, les impactés des hypothèques, des expulsions hypothécaires suite à l'explosion de la bulle immobilière en Espagne.
Que estamos consiguiendo converger mucha gente, me recuerda un poco a la Comuna de París.
Moi ça me rappelle la Comune de Paris parce qu'on arrive à faire converger beaucoup de gens ici.
Es incipiente, es el embrión.
C'est l'embryon, mais oui.
Mais c'était sanglant la Comune de Paris, c'était sanglant.
Sí, sí, sí. Claro, terminaron 30.000 muertos, 12.000 detenidos.
Bien sûr, il y a eu 30.000 morts, 12.000 prisonniers.
Pero yo pienso que si este movimiento sigue cogiendo fuerza, ya veremos a ver cómo terminamos, porque no.
Mais
creo
moi, je
que
pense que
permita.
Si ce mouvement continue à prendre de la force, je ne sais pas jusqu'où on va aller, on va voir.
Et toi, tu peux nous parler des hypothèques, c'est-à-dire des familles qui sont endettées, des familles qui ont hypothéqué leur maison.
Sí, no solamente están perdiendo la casa, sino lo que está sucediendo ahora.
Mais ils ne perdent pas que leur maison.
El banco tasa la vivienda por el 50% de lo que tasó en su momento. Para que sirva de ejemplo, una casa que el banco tasó en 200.000 euros, hoy es de 100.000.
Alors, par exemple, une maison qui a été évaluée par une banque à 200.000, elle est évaluée aujourd'hui à 100.000. Donc les biens immobiliers ont perdu 50% de leur valeur.
Y además, el banco se la queda por 50.000.
Et la banque la rachète pour 50.000, donc deux fois moins encore.
Saca la familia a patadas a la calle.
Elle met la famille dehors, elle l'expulse à coups de pied dans le derrière.
Y le sigue reclamando la diferencia hasta los 200.000.
Et elle continue à réclamer la différence jusqu'aux 200.000, prix évalué au départ.
Ça c'est passionnant. Il faut que tu nous expliques comment a fonctionné la bulle immobilière ici en Espagne, parce que c'est quand même cette bulle immobilière, c'est l'éclatement de cette bulle immobilière qui entraîne le déclassement de l'Espagne.
Exactamente, de eso se
exactement.
De eso se trata. Lo que sucede es que toda esa gente que había accedido a la vivienda,
donc, ahora tous ces gens qui avaient accédé à la propriété,
se queda sin esa vivienda, se queda en la calle.
Bon, déjà ils sont à la rue, ils ont plus de logement.
Con una parte del sueldo embargado en el caso de que lo
et
tuviera.
En plus avec une partie de leur salaire qui est saisie par les banques.
Exacto, con lo cual no tienen posibilidad ni de acceder a una nueva vivienda ni de salir adelante porque les quitan parte del sueldo.
Donc ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un nouveau logement et d'aller de l'avant parce qu'on leur retire une partie de leur salaire.
E incluso en algunos casos, al no tener vivienda y no tener ingresos, les quittent à sus hijos et se los llevan
a asuntos sociales. Et même parfois, parce qu'ils n'ont pas de logement et parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, on leur retire leurs enfants.
D'accord. Mais comment on en est arrivé là? Remonte un peu dans l'histoire.
Mais, igual que en el resto de Europa. Aquí, el banco titulizaba la deuda. Al banco le interesaba conceder cualquier hipoteca porque ganaba dinero con ello.
Bien sûr, parce que les banques étaient très intéressés à proposer des hypothèques, parce qu'ils gagnaient de l'argent là-dessus.
Claro, y concedía hipotecas a gente que sabía que no la iba a poder pagar.
Donc, ils proposaient des hypothèques ou des prêts à des gens dont ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas payer.
Y además las concedía por encima del valor.
Et en plus, ils les proposaient à des prix très élevés.
Una vivienda que valía 100.000 le concedían una hipoteca de 150.000 y
alors, además, par exemple, une maison qui valait 100.000 euros, ils leur proposaient en hypothèque à 150.000.
Y además a gente que no iba a poder pagarla por su nivel adquisitivo y el banco sabía que no iba
a
poder
pagarla. Y a des gens qui n'avaient clairement pas les moyens d'acquérir ces biens.
Combien de familles se sont fait avoir comme ça?
Oh, el número muchísimas. Ahora mismo que esté ya en proceso.
C'est énorme.
En proceso judicial hablamos de 1.400.000.
1.400.000 familias que son poursuivies par les banques en ce moment.
Y el año pasado, 250.000 desahucios. 250.000 familias
dernière,
fuera de su casa.
250.000 familias ont été expulsées de leur maison, de leur logement.
C'est exactement le système des subprimes américains.
Básicamente.
Oui, básicamente, c'est à peu près ça, oui.
Donc, on est d'accord que les banques savaient parfaitement ce qui allait arriver.
Los bancos lo sabían perfectamente, pero estaban ganando mucho dinero con ello vendiéndole
les
la deuda
savaient,
a los bancos exteriores.
Ils gagnaient beaucoup d'argent et en plus en vendant la dette aux banques extérieures.
Alors, explique-moi comment les banques gagnent de l'argent avec ce système.
Lo que hacían con esas hipotecas es hacer paquetes.
Alors, ce qu'ils faisaient avec ces prêts hipothécaires, c'est qu'ils en faisaient des packs.
Y esos paquetes de deuda.
Et ces paquets de dette.
Se lo vendían a bancos extranjeros.
Ils l'ont vendu, ils les vendaient à des banques étrangères.
Con lo cual tenían liquidez y obtenían beneficio que les pagaban los intereses.
Donc ils avaient des liquidités et puis ils recevaient les intérêts de ces packs qu'ils avaient vendus aux banques étrangères.
Y sobre todo hacían mucha liquidez que les permitía invertir entre otras cosas
et
en deuda pública.
Ils avaient beaucoup de cash pour investir dans la dette publique.
Que eso nos lleva al siguiente problema que se está generando ahora.
Et ça c'est ce qui nous amène au prochain problème qui est en train d'arriver aujourd'hui.
Claro, cuando se habla de rescatar a países como Grecia, Portugal y va a pasar con España.
Alors quand on parle de sauver des pays comme la Grèce, le Portugal et ce qui va bientôt arriver en Espagne, des pays qui sont en faillite,
realmente no se está rescatando a los países.
Alors vraiment, on sauve pas les pays, c'est pas les pays qu'on sauve.
Realmente a los que se está rescatando es a los bancos que habían vendido esos paquetes de hipotecas subprime, esos
alors,
esos paquetes.
Alors ce qu'on sauve, c'est les banques qui avaient émis et acheté aussi ces paquets de dettes qui sont insolvables.
Mais qui savaient très bien qu'elles allaient être insolvables, et elles savaient très bien que les gouvernements ne pouvaient pas faire autre chose que les renflouer.
Si, si, non, lo tenían absolutamente claro.
Bien sûr, ils savaient très bien que ça se passerait comme ça, et comme l'investissement était en dette publique.
Claro, sabían que iba a pasar lo que está pasando, que les iban a rescatar, no iban a tener ningún problema.
Ils savaient très bien qu'ils allaient être sauvés par les États, qu'ils n'auraient pas de problème.
Ahora bien, el problema es quién rescata a las familias que se están viendo
mais
durmiendo
bien,
en el coche.
Mais le problème c'est maintenant qui vient en aide aux familles qui sont en train de dormir dans leur voiture.
Claro, ese es el problema.
C'est
nadie.
Ça, le problème.
Los políticos miran hacia otro lado y
et
la gente.
Les hommes politiques regardent de l'autre côté.
Y al final, por suerte, pues la gente hartos, lo que hemos hecho es salir a las calles a decir que estamos aquí, que aquí tenemos que rescatar
a nosotros. Et là,
voilà,
c'est des gens qui sortent dans la rue et qui sont en colère et qui demandent à ce qu'on s'occupe d'eux aussi, quoi.
Mais alors, derrière nous là.
Qu'on les sauve.
Là, juste à côté de nous, il y a ce campement sur la Puerta del Sol. C'est pas ces gens-là qui sont sur la Puerta del Sol.
Aquí hay gente de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Non, mais bien sûr, ici aussi, sur la Puerta del Sol, il y a des gens qui sont impactés par ce problème des hypothèques.
Non solamente, pero muchos, de hecho.
Pas que, hein, bien sûr, mais il y en a beaucoup.
Hay un compañero de la plataforma de afectados por la hipoteca de Murcia.
Il y a un camarade de la plateforme des impactés par les hypothèques de Murcie.
Que le llama esto la revolución de las lágrimas.
Il appelle ça la révolution des larmes.
Ah.
Pues se forraron fundamentalmente.
Alors ceux qui se sont gavés sur cette histoire.
Los bancos.
Les banques.
14.000 millones de euros en el año pasado de beneficio.
14.000 millions de bénéfices l'année dernière.
Y los propietarios de terreno, que además eran los terratenientes históricos de España.
Les propriétaires de terrain aussi, en plus qui sont les anciens grands propriétaires espagnols.
Claro. Que vendieron a un precio bárbaro el suelo.
Qui ont vendu leur terre à des prix incroyables.
Y son los que siguen teniendo a día de hoy el dinero en el bolsillo.
Et c'est ceux qui continuent à avoir l'argent dans la poche aujourd'hui.
Comment s'organise la protestation par rapport à ça?
Desde la plataforma de afectados por la hipoteca.
Donc estamos... depuis la plateforme des impactés par les hypothèques.
Estamos trabajando en tres frentes.
On travaille sur trois fronts.
Uno, es una iniciativa legislativa popular.
D'abord, une initiative législative populaire.
Que consiste en exigir la dación en pago, el poder saldar la hipoteca con la entrega de la vivienda.
Qui consiste à pouvoir solder l'hypothèque en restituant le bien immobilier.
Bien, y que se contemple un parque de vivienda pública de alquiler para que esa gente pueda reorganizar su vida. En España hay 1 millón de viviendas vacías.
Y en España en ce moment, hay 1 millón de logements vides.
Que el gobierno se quede con ellas.
Que le gouvernement les achète.
Que se quede con ellos, pero no comprándolas. Yo hablo de expropiación directamente, ah, bueno, de nacionalizar esas viviendas.
Moi, je parle de nationaliser, d'expropriation, de nationaliser ces logements.
Y esas viviendas se dediquen a alquilarlas a precio módico para las personas afectadas.
Et que ces logements donc soient destinés à être loués à des prix modérés pour ces familles qui sont impactées par les hypothèques.
Luego hay otro frente de propuesta abierto, que los ayuntamientos creen un número importante de vivienda pública para alquilar a precio barato.
Donc que les mairies créent des parcs immobiliers en locatif à prix modéré.
Y luego hay la tercera línea de acción, que es la protesta directa.
C'est la contestation directe.
Que lo que estamos haciendo es directamente parar los desahucios. Nos movilizamos.
Donc c'est bloquer les expulsions.
Grupos de personas que nos dirigimos a la casa de donde se va a celebrar el desahucio y directamente.
Donc c'est des groupes de personnes qui vont dans les maisons qui sont menacées de. Enfin, dans les logements qui sont menacés d'expulsion et de bloquer, d'empêcher l'expulsion.
E impedimos que se produzca el desahucio.
Voilà, on empêche l'expulsion.
De forma pacífica.
Mais de forme pacifique.
Petite pause musicale.
Les indignés de la Puerta del Sol, là-bas si j'y suis, Madrid.
Voilà, on quitte la Puerta del Sol, alors qu'il n'y a plus de soleil, qui est exceptionnellement, avec l'idée, ils disent, ah oui, on a eu le soleil, maintenant on veut la lune, enfin, il y a des milliers de petits textes, j'espère que tout ça sera photographié, récupéré, qu'on pourra... regarder ça à tête reposée. Pour l'instant, les têtes sont pas très reposées, mais c'est justement ça qui est merveilleux. C'est pas fini. Encore une fois, c'est pas fini. Je fais comme si. C'est pas parce qu'on part que les choses s'arrêtent.
Parce qu'il est fort probable que le campement se lève, que le camp se lève ce week-end.
Ça a l'air.
Pour aller s'installer ailleurs, dans les quartiers, dans les villages, etc.
C'est une tentative qui peut, par rapport à tous ceux qui pensent, là, on est en train de fêter le 140e anniversaire de la Commune de Paris. Voilà, alors c'est la violence, c'est le sang, c'est les fusillés, c'est on donne sa vie, etc. Ok, on est toujours hanté par ces mythes, et ici aussi, la guerre d'Espagne. Là, on tente ici autre chose, par la douceur, par le consensus.
La non-violence active,
c'est ça, c'est les néo-babacool, c'est le... Alors on dit, oh, écoute, c'est vraiment la révolution bisounours, quoi. Alors ce qui fait qu'il y a des tas de gens... avec qui ils ont des contacts, et qui ont des contacts avec toute cette jeunesse, qui n'aurait pas existé sinon. Voilà. Au moins, ça a ce mérite-là. Ce que ça donnera, personne ne peut pour l'instant le prévoir, et ça vient après d'autres actions qui ont le même but, qui sont la critique du néo-capitalisme, du néolibéralisme, et tous ces effets. Ça, on l'a fait d'une manière violente, ça n'a pas marché, on l'a fait avec des grandes manifestations, des grandes grèves, des grandes manifestations de masse, ça n'a pas marché. Là, on essaye par la douceur, par la propreté, l'ordre, la gentillesse, le sourire quand même, et l'efficacité, hein. Et en se prenant le chou, voilà, on verra ce que ça apporte. Mais en tous les cas, c'est une brèche dans le cynisme résigné. Et ça, pour ça, je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. Le vent se lève, là, regarde, dans les bâches bleues et blanches et grises, le vent se lève.
et la petite fontaine au milieu, la fontaine au milieu continue d'arroser le jardin de nos amis, leurs tomates et leurs poivrons, et le jardin bio qu'ils ont fait autour de la fontaine.
Voilà des nouvelles du front de la Puerta del Sol à Madrid. Quant à Barcelone, on ne sait pas très bien où on en est. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que les indignés vont revenir comme on le suppose? Certains le redoutent, à commencer évidemment par les autorités de Barcelone. Tout est suspendu dans cet étonnant mouvement des indignés. En tout cas, ça continue à Paris, place de la Bastille, vous le savez. Tous les soirs, de 19 à 20 heures, il y a des indignés qui se réunissent, qui parlent, qui discutent, qui se multiplient en commissions et en ateliers de parole. Et puis, il y aura une grande manif dimanche à 14 heures, place de la Bastille à Paris. Voilà les photos sonores d'Inès Lérault, place de la Bastille, hier, de 19 à 20 heures.
Jeudi soir, 26 mai, place de la Bastille. Il fait froid, le ciel est couvert, il y a beaucoup de vent. Mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont assises sur les marches de l'Opéra Bastille, sur le trottoir, par terre, sur la place, et qui discutent. Enfin, c'est plutôt des gens très jeunes qui sont là, c'est assez étonnant. Des gens qui ont à peine 20 ans, on dirait. Mais il y a aussi des adultes, des gens en costume, des motards tatoués. Ces personnes se réunissent en écho au mouvement espagnol. Et donc ce soir, elles se regroupent en commission pour discuter du capitalisme et discuter des projets concrets pour l'avenir.
Donc on va faire un tour de micro à présent pour vous. Réactions, questions éventuelles ou si vous voulez apporter votre pierre au débat. Donc je vais passer le micro à la première personne.
Il y a plein de jeunes qui lèvent les mains.
Bonjour à tous. En fait, je voulais d'abord vous proposer quelques lectures pour qu'on puisse tous se renseigner sur tout ce système qui est global, qui est un peu compliqué, on ne sait pas par quel bout le prendre. En vous proposant d'abord un premier livre en fait qui a été écrit par Marie Douglas, c'est de l'anthropologie de la consommation et elle analyse en fait le comportement du consommateur mais qui rentre dans le système global, c'est-à-dire le système capitaliste dans lequel on est aujourd'hui avec une surconsommation, comment la production en toujours augmentant cette production dans une espèce de croissance qui n'en finit plus dévalorise finalement les biens produits et dévalorise le travail, etc., comme on l'a dit précédemment. On peut le trouver dans les bibliothèques parisiennes.
Hein. Aujourd'hui, quel est le problème du système? C'est que on est égaux politiquement, certes, on va tous pouvoir voter une voix, mais le problème, c'est que économiquement, on a une oligarchie au pouvoir en France et dans le monde qui se gave alors que nous sommes de plus en plus précaires, alors que notre environnement est de plus en plus détruit. Et donc, le seul moyen, à un moment donné, de réussir à stopper cette spirale, c'est de mettre en place une véritable république sociale où on est à la fois égaux civiquement, mais également socialement et économiquement.
C'est un grand jeune homme de 30 ans qui vient de parler, avec une chemise Romain. À rayures, qui fait très jeune cadre. Maintenant au micro,
oui, bonjour.
Un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec un gros pull, une écharpe,
un aspect qu'on n'a pas abordé, en tout cas pour la partie où j'étais là.
Ouais. Je voulais essayer d'intervenir sur les conséquences de la crise. Cette crise, elle a justement un effet un peu contradictoire. D'un côté, il y a des moments qui sont démoralisants, et d'un autre côté, ça provoque des énormes explosions sociales, comme on n'en a jamais vu. Enfin, moi, de ma génération, j'en avais encore jamais vu comme cette année, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Espagne, mais aussi ce qui s'est passé pendant le mouvement sur les retraites en France, ou les grèves générales qu'il y a eu en Grèce ces dernières années. Et moi, j'ai l'impression que, du coup, les questions comme la révolution, c'est quelque chose qui revient un peu à l'ordre du jour. Et les discussions sur ce que ça peut être la révolution, c'est aussi des choses qu'on doit se poser, nous, ici. Puisque, il y a 6 mois, personne n'aurait cru qu'en Égypte, en Tunisie, il y aurait eu des révolutions. Et ça se trouve, dans 6 mois, personne n'aurait cru que dans d'autres pays, il y en a.
Alors là, l'inscription pour les premières interventions est close.
Je suis désolé pour le décalage du programme. On va passer aux commissions maintenant. Voilà, j'appelle tous les membres des commissions à se réunir ici.
Non,
C'est pas normal, on a le droit de parler, on a le droit de parler.
Pour tous les gens qui voulaient parler, qui se révoltent.
Voilà, les gens qui veulent continuer à discuter, qui continuent ici, les gens qui veulent faire des choses pratiques dans les commissions, comme on avait voté hier dans l'Assemblée Générale, peuvent commencer à aller dans les commissions, voilà. Commission, action et logistique, mettez-vous par là. La commission autogestion et démocratie,
c'est là-bas.
C'est là-bas. Voilà, et action ici.
Sécurité, c'est en haut des escaliers.
Sécurité, c'est en haut des escaliers.
Il y a même une commission ordre sécurité. Alors voilà, les commissions se mettent en place. On va aller voir la commission Projet France. Il y a une vingtaine de personnes qui sont assises en cercle avec une personne qui a l'air de mener la discussion en faisant des gestes. Tout le monde écoute attentivement.
Mis au point, c'est-à-dire pour approuver par exemple quelque chose qui est proposé, on lève les deux mains et au contraire, si on n'est pas d'accord, on les baisse. Enfin, voilà, juste pour savoir où on avance.
Alors, moi, c'est vrai que Commission France, c'est un nom assez vaste, donc j'espère que je ne vais pas dire quelque chose qui est hors contexte. Donc déjà, je me prends pourtant, je m'appelle Lucas parce que je pense que personne ne me connaît ici. Ce qu'il faudrait dire, c'est essayer de définir des revendications claires sur le logement. Parce que pendant que là, on discute, il y a des gens, ils sont propriétaires, ils ont le droit de louer à des prix pas possibles des logements à des étudiants, aux salariés précaires, etc., etc. Et en gros, aujourd'hui, sur Paris, un 10 mètres carrés, ça peut taper 500 euros. Et non seulement le mec, il s'en met plein la poche, mais en plus, il pille l'État, parce que l'État, il va distribuer des APL. Est-ce que c'est à l'État de distribuer des APL, ou est-ce que l'État, il doit dire non, arrête ton délire, 500 euros pour 10 mètres carrés, c'est indécent, on plafonne et puis c'est tout. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut qu'on arrive à essayer de faire des propositions. Donc là, c'est l'exemple du logement, mais il y en a partout. Au niveau, est-ce qu'on considère que c'est normal que la France soit présente partout en Afrique de l'Ouest, par exemple? Pourquoi? Pour protéger les ressortissants. Est-ce que le Mali, il y a des Maliens en France, est-ce que le Mali va dire, ouais, on va foutre notre armée en France pour protéger nos ressortissants? Alors que les ressortissants africains, ils en prennent plein la gueule. Hein. Donc bon, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas deux fois deux mesures? Ça, c'est une chose. Après, le FMI, en Espagne, en Grèce, là-bas, ils en prennent plein la face. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Sur le sujet de la démocratie réelle, et je finirai là-dessus, on peut dire, ouais, on a des députés, mais les députés, on n'a aucun contrôle sur eux. C'est ça aussi, réclamer une démocratie réelle, c'est réclamer un contrôle du peuple sur les députés. Et l'exemple le plus emblématique, il y en a deux, finalement c'est au pluriel, c'est le traité constitutionnel. Tout le monde sait comment ça s'est passé, j'ai même pas besoin d'argumenter. Et le deuxième exemple, je pense que les gens ici, ils ont un peu participé au mouvement contre les retraites. C'est quoi cette démocratie-là? Dans un pays, quand t'as 3 millions de personnes dans la rue, t'as 80% de personnes qui disent « Non, ta réforme, on n'en veut pas », ça passe tranquillement. Alors que le projet, il disait quoi? Il disait « 1 million de signatures égale référendum ». Pourquoi le décret, il n'a pas été signé? Donc ça, c'est des choses qu'on... Je vais m'arrêter là, mais ça, c'est des choses dont on doit parler. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait d'autres commissions, on en parle ici. Voilà, moi, c'est la question que je pose.
Est-ce que je peux juste te demander de te présenter?
Moi, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et je suis étudiant en première année d'histoire.
Donc c'est à Sophie maintenant.
Je me disais notamment par rapport au tract, est-ce que ça serait pas possible d'intégrer par rapport à l'appel au 29 mai, de dire voilà, 6 ans après avoir dit non au traité constitutionnel européen, nous réaffirmons le choix qui a été fait là, contre l'austérité, contre les traités néolibéraux, et on dit oui à une Europe en mouvement, des solidarités, et je pense que c'est quelque chose de marquant dans l'esprit des gens, et s'inscrire en filiation par rapport à ça, je pense que ça peut aider à soutenir le mouvement, voilà.
Tu peux te présenter?
Je suis Sophie et je suis inspectrice du travail. Voilà.
C'est moi.
Le jour commence à tomber. Il y a des personnes qui s'occupent d'enlever les grandes banderoles. Lucas, je voulais te demander, t'es content toi de la commission dont t'as fait partie sur les projets en France?
Mais j'ai pas envie de parler en fait. Pour moi, ce qui est important de retransmettre aux gens, c'est les discussions qu'on a entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, ça m'intéresse pas de commenter ce qui vient de se passer. Moi, ce qui est important, c'est ce qui se passe.
«
Vous venez d'entendre un reportage d'Inès Léraud, place de la Bastille à Paris. Et auparavant, nous étions avec Daniel Mermet et Antoine Chao à la Puerta del Sol à Madrid. Merci à Marine, José María Ruiz, John et Carlos. Retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis, et sur la-bas.org. À la technique, Pascal Baldassari et Cédric Lalanne, réalisation Kai Nguyen et Franck Aderer, assisté d'Agnès Lebot. Marina Thuyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Maman, dans ton boulot, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin des employés ?
Pause obligatoire toutes les heures, histoire de faire quelques exercices de gym des yeux. Droite, gauche, droite...
Non.
Non, je rigole. Mais avec le contrat Malakoff-Médéric, on s'occupe vraiment de la santé des salariés. Par exemple, on bénéficie de leur réseau d'opticiens agréés.
Malakoff-Médéric prend soin de vos salariés. Avec notre réseau d'opticiens agréés, nous assurons ce qu'il y a de mieux, tout en réduisant leur reste à charge. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir.
Alors, cette planche là, cette charnière ici, je comprends rien au montage de cette armoire. Fred, tu m'aides ?
Ah ouais, non, et pas tout de suite, je dois m'occuper des impôts, sinon on va être hors délai et tout.
Fred, ça fait 2 ans qu'on déclare sur Internet, tu sais très bien qu'on dispose d'un délai supplémentaire, alors viens m'aider.
Quand vous déclarez vos revenus sur impots.gouv.fr, vous disposez d'un délai supplémentaire. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Et pour le montage de l'armoire ? Je pourrais pas avoir un délai supplémentaire ?
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 26 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche ? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Dans un instant, Carrefour de l'Odéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Corinne Audouin.
Au sommet du G8 qui se termine aujourd'hui à Deauville, Nicolas Sarkozy tente de reprendre la main sur la crise en Libye. Le président a l'intention de se rendre à Benghazi, le fief de la rébellion libyenne, avec le premier ministre britannique David Cameron. Les dirigeants des 8 premières puissances mondiales ont appelé de nouveau au départ de Muammar Kadhafi. Et sur le terrain, les opérations militaires vont s'intensifier avec le déploiement d'hélicoptères britanniques pour mener des attaques ciblées. Et pour les pays arabes déjà engagés sur la voie de la démocratie, les pays du G8 se sont engagés à fournir une aide financière de 40 milliards de dollars au total, une aide à long terme à la Tunisie et à l'Égypte, et pour tous ceux qui suivraient les exemples de ces deux pays, dans le viseur la Syrie, où la répression des manifestations continue. La France retire sa confiance aux dirigeants syriens, a dit Nicolas Sarkozy, qui a implicitement appelé Bachar el-Assad à démocratiser son pays ou à quitter le pouvoir. Mais le communiqué final du G8 ne fait pas allusion à une possible action devant le Conseil de sécurité de l'ONU. En Syrie, au moins 2 personnes ont été tuées dans la banlieue de Damas, la capitale. L'opposition a de nouveau appelé à manifester aujourd'hui dans tout le pays. En Égypte, malgré la chute du président Moubarak le 11 février dernier, des dizaines de milliers d'Égyptiens se sont à nouveau rassemblés place Tahrir au Caire pour protester contre la lenteur du changement promis par l'armée. Les manifestants réclament également qu'Hosni Moubarak soit jugé. Et en Espagne, le mouvement des Indignados, inspiré en partie de la révolution égyptienne, subit un premier revers. À Barcelone, la police a évacué la place de Catalogne. Comme à Madrid, elle était occupée depuis une dizaine de jours par le mouvement des jeunes indignés. 43 personnes ont été légèrement blessées. L'évacuation a été décidée pour des raisons de sécurité, en raison des célébrations prévues demain soir en cas de victoire du Barça sur Manchester United en finale de la Ligue des Champions. Ratko Mladic peut être transféré vers le tribunal pénal international de la Haye. C'est ce qu'a décidé la justice serbe. L'ex-chef militaire des Serbes de Bosnie, arrêté hier, a été examiné par plusieurs médecins qui l'ont estimé apte à être jugé. Il est accusé par le TPI de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité, notamment pour son rôle dans le massacre de Srebrenica en 95. L'avocat de Ratko Mladic a annoncé qu'il ferait appel de cette décision. La Cour d'appel de Paris donne son feu vert à la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, question déposée par les familles des victimes de l'attentat de Karachi. Cette QPC concerne la loi qui élargit le secret défense. À Roland-Garros, nous rejoignons Matteo Maestrachi. Non, c'est Fabrice Abgral qui suit les Français en lice aujourd'hui avec une bonne nouvelle, Fabrice, pour la numéro 1 française, Marion Bartoli.
En effet, Marion Bartoli s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. La numéro 1 française a écarté de sa route l'allemande Julia Görges, 18e mondiale en 3-7, 3-6, 6-2 et 6-4. Et c'est une superbe performance qu'a Görges. C'était un petit peu l'épouvantail de ce tournoi. En tout cas, la joueuse en forme du moment. Et Bartoli, donc, s'en est sortie et elle s'est qualifiée brillamment donc pour les huitièmes de finale. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'elle atteint les huitièmes de finale à Roland-Garros, la première depuis 2007. Actuellement sur le court numéro 1, Gaël Monfils est opposé au Belge Steve Darcy. Ça se passe bien pour Gaël Monfils puisqu'il mène 2-7-0. En revanche, 4 jeux à 2 pour Steve Darcy dans le troisième set. Sachez que le vainqueur de ce match affrontera au prochain tour l'Espagnol David Ferrer. Et actuellement sur le central, Joe Wilfried Tsonga est opposé à Stanislas Wawrinka, le Suisse. Le match vient tout juste de débuter. Un jeu partout entre les deux joueurs. Le vainqueur de ce match affrontera au prochain tour en huitième de finale Roger Federer.
Mais pas facile pour les Français au prochain tour. Merci Fabrice Abgral.
Mardi prochain, à partir de 20h, concert SOS Japon au Théâtre du Châtelet, en direct sur France Inter.
Un concert de solidarité exceptionnel pour venir en aide aux victimes du tsunami.
Avec Abdelmali,
Jane Birkin,
M,
Arnaud,
Charles Aznavour,
Gadi,
Vincent Delerme,
Yosef,
Catherine Deneuve, Dominique A,
Alain Souchon,
Jeanne Gérard,
Daphné,
Thomas Fersen,
Arthur H,
Alain Chamfort, Louis Doyon,
Olivia Ruiz,
Bernard Lavilliers,
Les Têtes Raides
et bien d'autres.
Une soirée unique dont les bénéfices seront intégralement reversés à la Croix-Rouge japonaise.
Pour assister à ce concert de solidarité, réservez dès maintenant vos places en appelant le 01 40 28 28 40 ou en vous connectant sur châtelet-théâtre.com. Concert SOS Japon. Une soirée présentée par Didier Varro en direct du Théâtre du Châtelet, à suivre sur France Inter, mardi prochain, à partir de 20h. France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un très joli disque pour commencer avec l'orchestre de chambre de Toulouse qui joue aussi bien sur instruments anciens que sur instruments d'aujourd'hui, enfin modernes en général. Et le disque s'intitule La Folia, Italie baroque. Alors La Folia, c'est aussi un thème fameux qu'on a appelé les Folies d'Espagne. Et d'après le grand spécialiste Jordi Savall, qui joue de la viole de gambe, qui est chef d'orchestre, La Folia viendrait du Portugal. Enfin, peu importe, c'est l'Europe musicale. Et oui, j'ai toujours dit qu'avant toutes les règles, il y avait eu la musique qui s'est beaucoup baladée et au XVIIIe siècle qui nous occupe, elle était vraiment très répandue. Les gens voyageaient, les musiciens se baladaient, faisaient des tournées déjà, bien sûr. Donc voici d'Arcangelo Corelli, cette folia, le premier thème assez fameux maintenant, et puis quelques variations interprétées de manière intrépide par Gilles Colliard, qui est violoniste et qui dirige en même temps l'Orchestre de Chambre de Toulouse.